Donc nous continuons notre étude du livre des Actes. Nous arrivons au chapitre 6, et en fait on va lire même le chapitre 6 et le chapitre 7. On va pas les lire en entier, mais en partie. Donc ce passage fait suite à l'épisode de Ananias et Saphira au chapitre 5, fait suite au passage aussi où les apôtres ont été conduits devant le grand conseil, et où Gamaliel, donc un des membres de ce conseil, un rabbin reconnu, a conseillé au grand conseil de laisser les apôtres en fait continuer, enfin de ne pas les tuer en gros, parce que simplement avec cet argument que si c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit à travers les apôtres, alors il ne faut pas aller contre, et si c'est simplement une œuvre humaine, eh bien elle s'éteindra d'elle-même comme d'autres se sont éteints. Et donc nous arrivons à ce passage qui va nous parler de l'élection des diacres, et qui va nous parler d'Étienne et de sa vie et de son martyre. Alors je commence donc dans Actes au chapitre 6, et donc je vais lire le chapitre 6 et une partie du chapitre 7. À cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions de nourriture. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Cette proposition convint à tous les disciples, et ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parthémas et Nicolas, un païen d'origine d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres, qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine, et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors des membres de la synagogue dite des affranchis, composés de juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il se montrait incapable de résister à la sagesse de ses paroles que lui donnait l'Esprit. Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu ». Ils ameutèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent au grand conseil. Là, ils firent comparaître de faux témoins qui déposèrent contre lui. « Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Le grand prêtre lui demanda « Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés ?» Et là, Étienne va faire un discours, un des discours les plus longs du Nouveau Testament, et il va parler de la façon dont Dieu s'est révélé aux hommes, d'abord à travers Abraham, et puis à travers Moïse, comment il les a délivrés, et à chaque fois en mettant en avant que, en particulier à travers Moïse, combien les Israélites se sont toujours opposés à lui et ont toujours refusé de lui obéir. Donc je reprends au verset 51. Ô hommes, vous obstinés, qui comme de véritables incirconcis gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste, et vous maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent vers lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Dans ce passage, on voit Luc montrer combien l'action de Dieu, à travers du Saint-Esprit, va modifier, va complètement changer finalement, à la fois l'organisation dans ce groupe d'hommes et de femmes qui commencent à composer l'Église, mais aussi comment le Saint-Esprit peut changer le comportement et la puissance même d'un seul homme. On le voit, donc on voit ces deux aspects, cet aspect collectif et cet aspect individuel de l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier un peu ensemble ce matin. Alors d'abord la première partie de ce passage, donc qui nous parle de la façon dont les diacres sont institués, hein, puisque en fait le terme qui est utilisé ici pour désigner ces hommes, donc il est parlé de service, donc diaconat, qui deviendra diaconos et diacre. La première chose qu'on constate dans ce passage, c'est que d'abord les problèmes ont pas disparu de l'Église, d'accord. Donc Yann nous en a parlé il y a déjà quelques dimanches, en nous montrant que ces problèmes arrivaient d'abord d'un problème d'une différence de culture entre des Grecs et des Juifs, la façon dont les femmes étaient perçues, comment elles étaient représentées dans l'assemblée, et cette différence faisait que donc les femmes les veuves des Grecs se retrouvaient sans porte-parole et donc sans personne pour recevoir la nourriture qui leur revenait. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ce passage fait aussi suite au passage qui nous parle d'Ananias et Saphira, où on voit là aussi donc l'Église qui se mobilise et qui partage ses biens, et on voit donc deux personnes qui décident comme le texte, de mentir au Saint-Esprit et qui sont sévèrement punis, puisque les deux meurent à ce moment-là. Donc on voit bien que l'Église connaît ses problèmes. Et là on voit la façon dont un de ces problèmes va être réglé par l'élection de ces diacres. Alors on peut déjà se dire que il y aurait eu d'autres façons de choisir ces sept personnes. D'accord? Donc les sept personnes qui ont été choisies sont d'origine grecque et donc vont pouvoir répondre au problème. Mais d'autres façons auraient pu être choisies pour les trouver. Et on peut penser à la façon dont, par exemple, Matthias, le 12e apôtre, a été désigné. On trouve ça au début du chapitre, au début du livre des Actes, donc dans Acte 1, au verset 21. Donc les apôtres constatent donc effectivement que des douze apôtres choisis par Jésus, il n'en reste plus que 11. Et ils disent donc qu'il faut en choisir un nouveau. Donc je lis au verset 21, « Nous devons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous, depuis le moment où Jean a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Cet homme sera ainsi avec nous un témoin de sa résurrection. » On présenta deux hommes, Joseph, appelé Barsabbas, surnommé le Juste, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière, « Toi Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes, désigne toi-même celui de ces deux frères que tu as choisi pour occuper dans cette charge d'apôtre, la place que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. Puis ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné et ce fut lui qui fut adjoint aux 11 apôtres. Donc, une des façons de faire aurait pu être le tirage au sort. C'était une pratique qui arrivait directement de l'Ancien Testament. On a plusieurs textes qui nous parlent de cette façon de tirer au sort, le bouc émissaire, par exemple, ou bien de désigner par le sort celui qui avait péché contre Dieu à un moment de l'Exode. Et on peut aussi se rendre compte que ce choix par le tirage au sort de Matthias, c'est la dernière fois qu'il est fait mention de cette pratique dans le Nouveau Testament. Plus jamais, en tout cas dans les textes, de personne sera désigné par tirage au sort. On aurait pu aussi faire une autre méthode, on aurait pu simplement les désigner. Et on trouve cette façon de procéder là aussi dans l'Ancien Testament, par exemple dans Exode au chapitre 18, quand Jéthro va voir Moïse pour lui dire qu'il ne peut pas assumer seul toute la responsabilité du peuple, hein, un peu la même chose que ce qui se passe pour les apôtres, hein, ils peuvent pas assumer l'intégralité de ce qui doit se faire dans l'Église à ce moment-là. Et donc Jéthro va dire à Moïse qu'il faut trouver d'autres personnes. Et je lis à partir du verset 24. Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci lui avait suggéré. Il choisit dans tout Israël des hommes capables et les plaça à la tête du peuple comme chef des milliers, des centaines, des cinquantaines, des dizaines. Voilà, ils étaient constamment à la disposition du peuple pour rendre la justice. On peut considérer que ça se rapproche pas mal du rôle des diacres. Donc désignation. On aurait pu aussi bien simplement dire que Dieu allait désigner lui-même ces personnes comme il le faisait pour les prophètes ou comme Jésus l'a fait pour les apôtres. C'est Dieu lui-même qui a choisi les personnes. Et pourtant c'est pas de cette façon-là que les diacres sont choisis. La méthode choisie, c'est une méthode d'élection. D'autres passages nous disent que finalement les anciens aussi seront choisis donc de cette façon-là. Là aussi, Yann nous en a parlé précédemment. Là, on peut remarquer que le discours d'Étienne qui va suivre ce passage nous parle de la façon dont le peuple de Dieu a reçu les envoyés de Dieu. Et de la même façon que Paul, dans Romains, fait un bilan de l'Ancienne Alliance et dresse un constat d'échec, alors Paul, lui, va constater l'échec du régime de la loi pour accéder au salut. Il va montrer combien la loi était bonne, mais la loi a révélé le péché, et finalement, personne n'étant capable de l'accomplir, cette loi aboutit à la mort. Et donc il présente la nouvelle alliance, la venue de Christ qui change cette condamnation et qui permet la restauration de la relation à Dieu. Étienne, lui, va aussi faire un espèce de bilan de l'ancienne alliance, je dirais davantage en l'accent sur la façon dont les hommes, dont Dieu a envoyé ses messagers vers les hommes, envoyer sa loi, envoyer sa parole, et la façon dont les hommes l'ont rejeté. Ils ont rejeté les envoyés de Dieu. Il explicite une parabole de Jésus, hein, la parabole des ouvriers et de la vigne, où le propriétaire de la vigne envoie des envoyés dans la vigne pour parler aux ouvriers. À chaque fois, les ouvriers les battent et les rejettent. Finalement, le propriétaire de la vigne envoie son propre fils et les ouvriers le tuent. Et donc Étienne reprend exactement cette description de Jésus en expliquant que Dieu a envoyé des hommes, des prophètes, et le peuple de Dieu les a rejetés, tués, et n'a pas accepté leur autorité. Et donc on voit donc dans l'Église, eh bien la façon dont les responsables sont choisis va différer de celle de l'ancienne alliance, et une méthode est mise en œuvre, une méthode d'élection. Alors c'est vrai que pour nous l'élection, eh bien ça fait référence, c'est un des fondements de notre démocratie. Et pour nous, c'est quelque chose de complètement, on va dire, complètement naturel comme méthode de choix d'un responsable. Alors à l'époque, je ne sais pas exactement quelle était leur perception de ça. La démocratie, ça arrive directement des Grecs, et la culture grecque était présente à ce moment-là. Mais quand pour nous on pense à démocratie, alors évidemment donc ça vient des Grecs, mais ça a quand même été retravaillé par les Lumières et dans notre déclaration des droits de l'homme et notre constitution, on retrouve des paroles d'Abraham Lincoln qui nous décrit la démocratie en nous disant que la démocratie c'est l'expression du peuple par le peuple pour le peuple. D'accord? C'est ça qui est mis en avant. Du peuple par le peuple pour le peuple. On dit souvent que bien justement l'Église n'est pas une démocratie. N'est pas une démocratie. Et effectivement si on devait transposer ce du peuple par le peuple pour le peuple, on se rend compte que l'Église, c'est d'abord de Dieu, pour le royaume de Dieu, et effectivement par les hommes. Et c'est ce que Dieu a choisi de faire, d'utiliser les hommes. Mais effectivement, la force et l'essence de l'Église, c'est d'abord la présence de Dieu. Et son objectif, c'est pas de maximiser le bien commun, mais c'est de propager le royaume de Dieu et de glorifier Dieu. Donc on voit oui, effectivement que cette méthode d'élection, même si elle rappelle la démocratie, ne lui est pas semblable. Et on voit bien que quand on pense à la démocratie, on regarde à ce qui se passe dans notre société, et on peut constater que cette méthode d'élection à laquelle on est tellement attaché, on est en train de vivre actuellement quand même des moments où on voit ses limites. D'accord? L'élection que nous pratiquons a une tendance à reproduire des élites et pas à représenter le peuple, hein. On critique souvent notre assemblée, le Parlement, en constatant qu'il y a surtout des hommes de blancs de plus de 50 ans, qui sont pour la grande majorité avocats. Excuse-moi, j'ai rien contre les avocats, mais c'est comme ça. Et bon, c'est pas une nouveauté de dire que notre démocratie représentative est en crise, hein. Je sais pas, notre président qui est élu au suffrage direct doit avoir, je sais plus, aux dernières nouvelles, 20% de satisfaction ou quelque chose comme ça. Enfin, donc on voit bien que même l'élection ne garantit pas donc ni la représentativité, ni le fait d'ailleurs que ceux qui sont élus aient l'assentiment du peuple qu'ils sont censés représenter. La semaine dernière, j'étais dans ma famille où sont plusieurs en fait à s'être engagés dans leur communauté, donc au niveau du conseil municipal, au niveau d'associations, etc. Et un de mes cousins me parlait avec pas mal d'amertume de la façon dont les personnes qui étaient élues étaient traitées dans notre société, où finalement ils recevaient beaucoup de critiques et où finalement, une fois que leur mandat était terminé, on les éjectait pour les remplacer par d'autres, hein, simplement parce que on avait trouvé plus simple de leur casser du sucre sur le dos plutôt que de les soutenir. Et bon, notre monde fonctionne comme ça. Et donc l'élection qui est pratiquée ici dans les actes et qui met en place finalement le fonctionnement de l'Église. D'ailleurs, fonctionnement qui va être, hein, comme Diane nous l'a redit aussi, va être assez rapidement abandonné. Donc ce mode électif garantit pas un bon fonctionnement du groupe que constitue l'Église. Mais on voit que il y a un autre facteur qui va entrer en ligne de compte, et c'est vraiment là-dessus que j'avais envie d'insister. C'est la présence, et c'est ce qui est répété plusieurs fois dans ce passage-là, ça revient au moins quatre fois, sur la présence de l'Esprit Saint et de ce que ça change dans la façon dont, à la fois dont les personnes sont, sont choisies. Et là, ça c'est explicite, hein, puisqu'il nous est dit que parmi les critères qui étaient recherchés, donc il y avait la réputation, la sagesse et être rempli du Saint-Esprit. On voit que la présence de l'Esprit change la façon dont on peut percevoir l'élection. Parce que ce qui va être recherché, autant dans celui qui est choisi que dans la démarche de celui qui choisit, c'est que la volonté de Dieu soit manifestée, et non pas la volonté des hommes. Dans ce processus, on a une collaboration entre Dieu qui agit et l'homme qui se fait l'instrument de cette action de Dieu. Donc on l'a vu, comme je l'ai dit, dans les critères qui sont requis, donc des critères pas purement humains, mais disons simplement pragmatiques et terre à terre, de la sagesse, et puis une bonne réputation, donc la réputation d'être digne de confiance. Et c'est important de prendre en compte cet aspect, évidemment, cet aspect pragmatique quand on choisit des représentants. C'est peut-être aussi important de se rendre compte que là, il est mis en avant la réputation. On sait bien que la réputation, c'est pas quelque chose de complètement objectif. Moi qui vous parle ce matin, je vous ressemble à peu près. Hein, on est habillé à peu près pareil, tous ici, à quelques variations près. Si je vous parlais avec un habit complètement différent, il est probable que ce que je suis en train de vous dire, vous ne le recevriez pas comme étant, vous ne le recevriez pas de la même façon. Si j'étais beaucoup plus jeune, ou peut-être beaucoup plus vieux, vous le recevriez pas de la même façon. C'est le fait que notre aspect extérieur, notre façon de nous montrer fasse partie de notre perception. Il faut qu'on en ait conscience, c'est une réalité, mais il faut aussi qu'on y fasse attention, parce que justement Dieu peut aussi nous parler à travers des personnes qui ne nous ressemblent pas, sont pas habillées pareil, parlent pas de la même façon, sont pas du même contexte social, et Dieu utilise quand même ces personnes-là pour le faire. Donc dans les critères de choix, donc s'il y a ces critères pragmatiques, et puis donc il y a le critère, il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, alors. Rempli du Saint-Esprit, ça veut dire manifester les caractéristiques de Dieu, manifester son caractère. Ce qui est important de comprendre, c'est que les Actes des Apôtres nous décrivent la façon dont l'arrivée du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme va transformer l'Église et va transformer le peuple de Dieu. C'est ça la Nouvelle Alliance. C'est que nous sommes non seulement sauvés, réconciliés avec Dieu, mais Dieu vient habiter en nous. Et ça change fondamentalement les choses. Rempli du Saint-Esprit, donc, manifesté d'une façon particulière et visible, les caractéristiques de Dieu. Et on va voir comment Étienne va manifester cela. Donc, pour terminer avec la transformation de l'organisation dans l'Église, Dieu demande aux membres du peuple de Dieu de choisir des hommes qui possèdent ses propres caractéristiques. Et ces hommes-là le font à travers la présence de Dieu qui est en eux. On a un processus d'élection, mais ce qui est mis en avant, c'est la présence et le caractère de Dieu. Et ça implique pas mal de choses. Ça implique en particulier que on va reconnaître dans celui qui a été choisi, eh bien, non seulement le fait que c'est Dieu qui l'a choisi à travers nous, mais aussi le fait que ce sont les caractères de Dieu qu'il manifeste. Ça change notre regard. Ça change notre regard sur les autres, parce que ça veut dire que nous devons chercher en l'autre à voir cette présence de Dieu. Nous devons la chercher. Nous devons nous réjouir quand nous la voyons se manifester. Contrairement à ce qui se passe dans le dans le monde où une fois qu'une personne est mise devant, on va surtout chercher à se protéger d'un abus de pouvoir, ce qui arrive évidemment de temps en temps. Dans l'Église, ce que nous devons rechercher à voir dans ceux qui servent, c'est la présence de Dieu et la façon dont Dieu va se manifester et va rendre la personne apte à servir. Ça change notre regard sur les autres et je le dis de plus en plus, enfin d'autant plus facilement que maintenant je suis plus responsable depuis quelques semaines. Donc rechercher en l'autre cette présence de Dieu, mais aussi rechercher en soi à manifester cette présence. Et je vais continuer avec donc l'exemple d'Étienne qui nous est donné dans ce passage. À Étienne, on dit souvent que c'est un type de Christ. Parce qu'Étienne va manifester dans sa vie les mêmes caractères, la même façon de se comporter que le Christ. Quand on nous décrit son action, alors on nous dit, voilà, c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit, qui était rempli aussi de sa puissance. Et à ce moment-là, donc ça se manifestait par des prodiges et des signes miraculeux. Que Étienne accomplissait devant le peuple et qui appuyait son témoignage et qui faisait que tous les juifs qui étaient là regardaient et s'interrogeaient. Donc une puissance dans les actes miraculeux. On voit aussi la manifestation de la puissance de Dieu à travers Étienne dans son discours. Il va tenir un discours extrêmement courant, extrêmement percutant, face donc au grand conseil, en leur montrant l'échec de leur relation à Dieu, de la façon dont ils n'ont jamais réussi ni à accepter ce que Dieu leur envoyait, ni à obéir à la loi que Dieu leur avait donnée, en leur montrant finalement qu'ils avaient rejeté jusqu'au dernier envoyé de Dieu, qu'ils avaient rejeté le Christ. Et donc Étienne va suivre finalement un chemin très parallèle à celui du Christ dans la manifestation de la puissance de Dieu, dans le discours qu'il va tenir, dans l'annonce de l'Évangile qu'il va faire, et puis dans la façon dont il va mourir, donc dont il va être faussement accusé et finalement tué. Et il va manifester aussi le même amour que le Christ, hein. C'est impressionnant donc de voir même à la fin, il va avoir les mêmes paroles ou quasiment les mêmes paroles que le Christ a eues sur la croix. Il va demander donc à ce que le péché que ces hommes accomplissaient contre lui ne leur soit pas reproché. Donc le même amour manifesté pour les hommes. On voit malheureusement que c'est facile on trouve beaucoup d'hommes qui sont prêts à mourir pour Dieu. On en trouve beaucoup moins qui sont prêts à mourir pour Dieu par amour et qui manifestent l'amour de Dieu en le faisant. La présence de l'Esprit en Étienne l'a transformé et a permis à Étienne de manifester la plénitude du Christ. On peut retrouver ce terme, ça se trouve dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4. Donc là, il est parlé de la façon dont la vie en Christ nous transforme. Le passage, il me semblait que c'était Éphésiens 4 au verset 13. Donc il est parlé des dons que Dieu a fait aux hommes, hein, donc les dons de ces justement, de tous ceux qui vont servir dans l'Église. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, un stade manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Donc là, Paul met l'accent sur l'enseignement et sur la façon dont, à travers l'Église, nous grandissons jusqu'à ressembler au Christ. Dans le passage des actes, c'est l'action de l'Esprit qui est mise en avant pour manifester comment Étienne va aller jusqu'à ressembler au Christ. Donc, comme je l'ai dit, les actes montrent comment l'action de l'Esprit va transformer les relations collectives que nous pouvons avoir, comment l'Esprit va transformer notre... nous transformer nous-mêmes en profondeur. Et ce texte, je trouve, contient un encouragement à voir, à ce que nous regardions les autres en cherchant la manifestation de l'Esprit de Dieu qui habite en eux. Ça demande de la foi, parce que c'est pas toujours évident de voir ça. Ça demande de la volonté pour rechercher dans nos frères et sœurs cette présence de Dieu, cette manifestation de Dieu. Ça demande aussi de la consécration pour que nous-mêmes nous puissions manifester cette plénitude du Saint-Esprit, parce que c'est ce à quoi Dieu veut nous conduire. L'exemple d'Étienne est bien sûr, on va dire, emblématique, mais nous-mêmes nous avons à manifester cette plénitude là où Dieu nous a placés, de la façon dont il veut que nous le fassions, et cet Esprit habite en nous. Paul a cité donc ce passage d'Apocalypse où l'Esprit encourage l'Église à ouvrir la porte, parce que ce passage s'adresse d'abord à des chrétiens. Alors c'est vrai, nous avons à ouvrir la porte pour que l'Esprit de Dieu puisse se manifester dans sa plénitude. J'espère que, comme moi, vous avez été encouragé par ce passage, encouragé aussi dans notre vie d'Église, à voir comment Dieu se manifeste.